Bonsoir, frères et sœurs. Soyez les bienvenus. En tout cas, nous sommes toujours les bienvenus quand nous venons dans la présence de Dieu. Alléluia. Je voudrais ce soir vous inviter à ouvrir avec moi dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Et c'est là au chapitre 4. Je voudrais donner suite à la méditation que nous avons bien eue mardi dernier, pour ceux qui étaient là. De Timothée chapitre 4. Voilà, nous savons qu'ici, Paul est dans les derniers instants de sa vie et il écrit cette lettre à la fin de sa vie. Il dit, « Pour moi, je sers déjà de libation ou de sacrifice. » Et le moment de mon départ approche. Et il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Je voudrais vous inviter à ouvrir dans le premier livre, s'il vous plaît, dans le livre de la Genèse, et au chapitre 49. Genèse, chapitre 49, nous lirons à partir du verset 22. Il est dit, c'est la bénédiction prophétique de Jacob à l'ensemble de ses fils. Nous lirons ce soir ce qui concerne Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées. Par les mains du puissant de Jacob, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des antiques collines, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Ainsi est la prière et la bénédiction de Jacob à l'ensemble de ses 12 fils, et ce que nous avons lu ce soir, c'est en particulier celui de Joseph. Nous avons lu tout à l'heure le constat, la conclusion, on va dire comme ça, de la vie de Paul, qu'à la fin de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai garder la foi. Et, frères et sœurs, je voudrais ce soir nous inviter à vraiment aller dans cette direction de combattre le bon combat. Paul, dans sa vie, vous pouvez peut-être le noter, mais on ne va pas le lire, de Corinthiens chapitre 11, verset 26. Il va décrire l'adversité qu'il rencontre. Il va dire en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer et en péril parmi les faux frères. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 30, il dira, en péril à toute heure. Et à la fin de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Frères et sœurs et amis, je crois que depuis le jour où nous nous sommes engagés avec Dieu à partir de la croix, eh bien, nous entrons dans une course et la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il est bon de commencer, mais il est bon de terminer la course. Paul a commencé cette course et à la fin de sa vie, il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. De quel combat s'agit-il? Est-ce qu'il déclare avoir combattu pour la mort de ses ennemis ou pour la déchéance de ses détracteurs, de ses opposants, des faux frères qui se sont opposés? Non, le combat dont il nous parle, c'est celui de garder la foi. Et nous savons, chers frères et sœurs, que le Seigneur dira lui-même que beaucoup, dans la fin des temps, abandonneront la foi. Il est donc important que dans les combats, dans l'adversité auquel nous sommes confrontés, de garder la foi. Et je voudrais que ce soir, c'est pour cela qu'on a lu la bénédiction de Joseph, je voudrais que ce soir, pendant quelques minutes, nous prenions le temps de parcourir quelques traits de l'histoire de Joseph parce qu'il nous enseigne sur le combat de la foi. Et il y a pour moi une chose importante, nous en avons parlé la dernière fois, c'est que lorsque nous entrons dans cette démarche d'obéissance à Dieu, nous ne sommes pas épargnés des combats, bien au contraire. Nous avons vu la dernière fois que Jacob, lorsqu'il est retourné à Canaan, c'est sur la parole de Dieu. Il est sur le chemin de l'obéissance. Mais que, arrivé à l'entrée de Canaan, eh bien, il va devoir livrer un combat qui est essentiel pour lui avant de s'engager. Allait-il s'engager en sachant que son frère vient vers lui avec un comité d'accueil de 400 soldats, ou bien s'arrêter sur l'autre rive et faire demi-tour? Et je crois que nous tous, nous sommes confrontés à cette situation-là dans notre vie. Allons-nous nous engager à aller de l'avant dans cette vie d'obéissance, ou allons-nous faire une halte au point même de vouloir reculer? La Bible nous dit, nous l'avons vu, que Jésus même, à la fin de sa vie, va crier vers Dieu le Père pour lui dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous avons besoin, vous et moi, que dans cette marche, dans cette course d'obéissance à Dieu, nous avons besoin du soutien de Dieu. Nous avons besoin de garder la foi. Parce que c'est la foi qui va nous donner de saisir les promesses de notre Dieu. Or, si l'adversité elle est là, nous savons que Dieu n'y est pas étranger. Même si l'ennemi agit, intervient, il y a une permission de notre Dieu. Et lorsqu'il y a cette permission, Dieu poursuit un objectif. Dans la vie de Jacob, eh bien, Dieu va venir vers lui cette nuit et la Bible nous dit qu'il va combattre avec Dieu. Il n'a pas combattu contre Dieu, mais il a combattu avec Dieu. Et je crois que le bon combat, c'est celui de combattre avec Dieu. Or, le combat de la foi, c'est celui de combattre avec Dieu. Et Alors que Jacob hésite en arrivant au torrent de Yabok, dans la nuit, il va prendre cette décision de s'engager et il va s'engager, traverser le fleuve avec tous ses biens. Je voudrais ce soir, frères et sœurs et amis, si vous êtes dans cette situation, si vous savez pas s'il faut s'engager, s'il faut aller de l'avant, etc., je voudrais nous engager ensemble à aller, à nous engager dans le chemin de l'obéissance et de la foi en notre Seigneur. Alléluia. L'exemple de Joseph nous dit que son père va lui dire, va voir tes frères. Joseph connaît l'animosité de ses frères à son égard. Il aurait pu dire à ce moment-là, non, je sais qu'il, là-bas, je suis pas sous ta protection, il va certainement se passer quelque chose. Et si Joseph avait certainement amené ses arguments, eh bien, cela certainement lui aurait épargné ce qu'il va vivre. Mais Joseph va obéir. Et l'obéissance nous amène sur le destin que Dieu nous a réservé. Mais sur ce destin, il y aura toujours de l'adversité. Et dans la bénédiction de Joseph que nous avons lue tout à l'heure, il est dit ceci, « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. » Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette muraille? Si ce n'est qu'elle nous parle de l'adversité, de l'opposition. Dans la bénédiction de Dieu, il y a également de l'opposition, l'adversité. Parce qu'elle nous va nous permettre, comme cela est dit ici, de s'élever au-dessus de la muraille. Nous pouvons nous arrêter ou bien nous pouvons regarder vers le haut et chercher auprès de notre Dieu le secours dont nous avons besoin. Et nous savons que lorsque nous crions vers lui, il ne manque pas de nous secourir. Le Seigneur dans le jardin a crié vers le Père et la Bible nous dit qu'un ange du ciel lui est apparu afin de le fortifier. Et je crois que c'est la volonté de Dieu toutes les fois que nous crions vers lui, c'est de nous fortifier afin d'aller jusqu'au bout de l'obéissance. La Bible nous dit en ce qui concerne le Christ, je l'ai dit dernièrement, qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Eh bien, cela veut dire que nous allons apprendre l'obéissance par les choses qui nous font souffrir. Mais le choix nous appartient, frères et sœurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si Joseph avait fait valoir que père, ils vont me massacrer, je vais être tout seul, je ne suis plus sous ta protection. Peut-être que son père aurait envoyé un serviteur. Mais Joseph n'entrerait pas dans la destinée que Dieu lui a donnée. C'est parce qu'il a obéi qu'il est entré dans cette destinée. Et je voudrais, frères et sœurs, nous engager fortement. Parce que c'est ce que Dieu aime. La Bible nous dit, c'est dans la première, dans le premier livre de Samuel, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la soumission également. Et lorsqu'un cœur est dans une obéissance, dans une soumission à Dieu, c'est cela qui plaît à Dieu. Beaucoup plus que ce que nous allons faire, dépenser. Et je crois que c'est ce que Dieu nous demande. Avant tout, parce que l'obéissance est une disposition de cœur qui plaît à Dieu. Joseph, lui, il a vu la haine de ses frères. Il a entendu les mauvais propos. Il a vu leur colère lorsqu'ils l'ont jeté dans le puits. Il a vu leur colère s'exprimer lorsqu'ils l'ont vendu. Lorsqu'il était dans le puits et puis que eux ils s'assoient pour manger ce qu'il a apporté. Et que certainement ils étaient en train de le railler pour dire, ben maintenant on va voir où ça mène ses rêves. C'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs. Il a vu la colère de Simon et de Lévi qui se sont manifestés contre Sichem lorsqu'ils ont tué tout un village. Et dans cette situation, il a imploré ses frères, la Bible nous le dit, mais sans résultat. Il a vraiment. Et il aurait pu en vouloir à ses frères à cause de tout ce qui s'est passé. Et on comprendrait humainement pourquoi il en veut à ses frères. Humainement, on comprendrait. Mais il n'en est pas ainsi. La Bible nous dit que lorsqu'il atterrit chez Potiphar, l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Même dans l'esclavage, dans la prison. Voyez? Et même lorsqu'il va être emprisonné injustement, la Bible nous dit que l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Il aurait pu en vouloir à ses frères lorsqu'il était chez Potiphar. Quand ça allait mieux, il a dû se dire, eh bien, je vais pouvoir me restaurer, me relever, et puis bam, il va atterrir en prison. Il va descendre encore plus bas. Ce sont des choses, frères et sœurs, que nous pouvons vivre et traverser dans notre vie. Mais quel en est-il de la disposition de notre cœur? Dieu est-il présent dans mon adversité? Où est-ce qu'il est Dieu lorsque je crie vers lui? Dans ma souffrance, dans mes pleurs, où se trouve-t-il? Je crie à lui, je cherche la délivrance. Beaucoup ont abandonné la foi à cause de tout cela. Mais qu'en est-il de nous? Lorsqu'on regarde la vie de Joseph, j'ai comme l'impression que Joseph, lorsque les choses sont arrivées, il a pris un train en cours. Voyez? Il a tourné une page. Mais je crois qu'il y a une chose qu'il a gardée à l'esprit, ce sont les révélations que Dieu lui a faites. Et il a gardé la foi en ce qui concerne le projet de Dieu pour sa vie. Alors que là, dans la prison, il va donner la réponse à l'échanson en ce qui le concerne, mais la Bible nous dit qu'il va l'oublier. Est-ce que ce n'est pas des choses qui nous arrivent aussi? On a l'impression qu'on nous a oubliés. On stagne, on est au même point, on n'avance pas, etc. Je n'ai pas d'avancement, ça fait 5 ans, 6 ans, je suis toujours au même point. Je crie vers Dieu. Est-ce que Dieu nous aurait oubliés? Frères et sœurs, rappelons-nous que ce n'est pas les clous qui ont retenu le Christ à la croix. C'est notre vie. Ce sont nos péchés. C'est notre pardon dont nous avons besoin qui ont maintenu les fils de Dieu à la croix. Non, nous sommes marqués dans les mains de notre Seigneur et dans son cœur. Mais pour cela, nous devons garder la foi. Au chapitre 42 jusqu'à 43, 44, il va accéder au trône, à la responsabilité. Alors là, il va se dire, enfin, j'y suis parvenu. Mais je crois que c'est avant tout parce qu'il a gardé la foi. Ce n'est pas ses efforts, mais c'est le fait d'avoir gardé foi en ce qui concerne la révélation de Dieu pour sa vie. Et je crois que toute la révélation de la parole, elle est ici. Et lorsque nous y puisons nos regards, nous y plongeons nos regards, nous pouvons puiser ce dont nous avons besoin pour être consolés, pour être fortifiés, pour être encouragés dans nos moments de solitude, dans nos moments où on est oublié, dans le moment où il y a de l'incompréhension. Et là, je veux dire, oublié pendant 2 ans, il aurait pu dire encore, mais ces choses ne m'arriveraient pas si mes frères ne m'ont pas vendu. Mais ça, c'est de leur faute. Si cette femme de Potiphar, elle n'a pas menti, et passé toute sa vie à ressasser tout cela dans son cœur. Mais il n'en est pas ainsi. Et lorsqu'il accède au trône, il voit là venir ses frères. Il aurait pu dire, voilà une occasion de tirer vengeance. Voilà une occasion de démontrer que j'avais raison. Mais ce n'est pas cela qu'il a dit. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que je nous interpelle tous sur le fait de combattre le bon combat. Quel est le combat que tu mènes? Quel combat menons-nous? Paul dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter avec la chair. Nos armes ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Nous le savons, frères et sœurs. Mais est-ce que réellement, dans notre vie, cela est vérité? C'est une autre chose. C'en est une de confesser, mais c'en est une autre que cette parole devienne réalité dans notre vie. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que sa parole, ses promesses, ses révélations soient des vérités, des réalités dans notre vie. Parce que Dieu ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Mais avec l'adversité, avec l'épreuve, avec la difficulté, il a déjà préparé le moyen d'en sortir. Même si pour l'instant tu ne le vois pas, mais c'est la foi qui te dit. C'est la foi qui me dit que je suis dans l'épreuve, mais Dieu a déjà prévu la porte de sortie. Je ne la vois pas, cette porte, mais pour l'instant, mais la foi me dit qu'elle est déjà prête. Et c'est ça qui doit me donner de persévérer. C'est ça qui nous conduit sur le chemin de la victoire. Parce que notre victoire est en Christ. Alléluia. Quand Joseph va voir ses frères, je voudrais nous inviter à lire Genèse chapitre 45. Comme ça, on va lire ensemble ce que Joseph va dire à ses frères. 45, voilà. Nous lirons à partir du verset 4. On ne peut pas tout lire le chapitre, vous pouvez le lire, mais lorsqu'il va déclarer, c'est moi, Joseph. Verset 3, il dit, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence, et on comprend. Hein? Après l'avoir vendu, ils sont là. Et Joseph va leur dire, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Je ne sais pas vous, mais moi la première fois que j'ai lu ça, enfin que j'ai réalisé, je me suis dit, avec tout ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il peut dire de telles choses? Ne regrettez pas de m'avoir vendu. Ne regrettez pas de m'avoir jeté dans le puits. Ne regrettez pas de vous être moqué de moi. Ne regrettez pas tout cela. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui m'envoie devant vous. Ce n'est pas la grâce de Dieu, ça? Hein? Est-ce que ce n'est pas le pardon de Dieu qui est passé par là? Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, c'est ça le bon combat. Lorsque nous livrons le bon combat, on ne peut arriver ailleurs que dans cette disposition de cœur. Où on ne regarde plus la chair et le sang, mais on regarde vers le Créateur. Et on bénit le Créateur dans l'adversité. Parce qu'on sait que c'est lui qui nous a conduits. Et que dans cette adversité, il est en train de nous préparer, de nous former, de nous tailler, de nous cisailler. Ça a fait mal. Il y a eu des pleurs, il y a eu des souffrances, il y a eu des angoisses, il y a eu des nuits blanches, etc., etc. Mais reconnais-tu la présence de Dieu dans ton adversité? Je voudrais, frères et sœurs, nous engager dans cette disposition de cœur de combattre le bon combat et de réaliser que dans l'obéissance, il y a l'adversité. Mais Dieu va utiliser cette adversité pour nous bénir. Et non seulement pour nous bénir, mais pour que nous aussi, nous soyons une bénédiction pour les autres. Et ces plaies qui se sont ouvertes pendant ce temps de l'adversité, le Seigneur va guérir, refermer, au point que Joseph dira, ne pensez plus à tout ça. Ce n'est pas vous en fait, mais c'est Dieu qui a conduit pour que les choses se fassent ainsi. Alléluia. Frères et sœurs, il a combattu le bon combat. Il a compris que Dieu était dans cette adversité. Il a combattu contre la haine vis-à-vis de ses frères, contre l'entretien de la colère, de l'incompréhension, de l'amertume. Il a certainement combattu tout cela et déposé devant Dieu pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Il a gardé la foi en Dieu. C'est ainsi que nous pouvons comprendre la bénédiction de Joseph. Parce que bien souvent, nous regardons c'est peut-être pas correct, le bon côté de la bénédiction, si on peut dire comme ça, le côté agréable, voilà, de la bénédiction. Mais il y a deux côtés dans la bénédiction, mais tous les deux ont pour le même objectif. Et frères et sœurs, je voudrais terminer en lisant avec vous ce verset, 1 Samuel chapitre 17, frères et sœurs. Toute une armée a été tenue en échec parce qu'ils n'ont pas compris. Vous m'entendez, frères et sœurs? Toute une armée a été tenue en échec parce qu'elle n'a pas compris l'essentiel. Et frères et sœurs, toute une église peut être tenue en échec parce qu'elle n'a pas compris l'essentiel. Voyez? Il faut combattre le bon combat. Et ici, toute une armée a été tenue en échec pendant 40 jours. Pendant combien de temps es-tu tenue en échec? Ce soir, tu peux décider. Hein? Jusqu'à ce qu'un adolescent vienne. Un peu d'humilité, c'est bon. Hein? Voilà. Un adolescent vienne et dise, moi, je vais aller combattre. Mais tu es un enfant. Tu n'as jamais appris à combattre, etc., etc. Lui, c'est depuis son enfance. Tu as vu la hauteur, tu as vu son armure, tu as vu ses armes. Puis toi, avec ton petit bâton de berger, là, ta petite fronde, là. Ouais. Voyez? Mais c'est ça la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est ce que Dieu dit à Paul. Voyez? Et lorsque nous comptons sur la grâce de Dieu, eh bien, nous en arrivons à ce que David disait. Alors, verset 47. Est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Verset 47. 1 Samuel 17, 47.
Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre vos mains.
Amen. Voyez? La victoire appartient à l'Éternel. Et pourquoi la victoire appartient à l'Éternel? Parce que cette bataille lui appartient. Voilà. Alors, frères et sœurs, quand nous comprenons que dans l'adversité où nous sommes, Dieu est avec nous, hein, et que c'est lui qui veut combattre pour nous, alors on vit la victoire. Voyez? Un adolescent avec une fronde et une pierre contre une armure. Mais il y a une faille dans toute armure. Voyez? David, c'est un tireur d'élite parce que Dieu était avec lui. Amen. Alléluia. Quel est le géant qui se dresse devant toi, mon frère, et que tu ne peux pas lutter? Cette bataille appartient à l'Éternel. Et la victoire lui appartient également. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous donnes d'avoir été à l'écoute de ta parole. Et nous voulons simplement dire, Seigneur, aide-nous à garder la foi. Dans cette course à garder la foi, Seigneur, que, Seigneur, tu es présent dans tous les instants de notre vie. Et que, Seigneur, la victoire t'appartient. Et tu veux nous donner de vivre la victoire. Bénis chacun d'entre nous ce soir. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.